Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Endurance 30. Je suis Nicolas Vandel, fondateur de Agile Training. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne des sportifs dans la réussite de leur projet d'endurance, de l'athlète de haut niveau pour les Jeux Olympiques, au sportif débutant qui veut réussir son premier 10 km. Ce podcast est dédié à tous ceux qui veulent en savoir plus sur ce vaste et passionnant sujet, en 30 minutes environ, le temps d'un petit footing ou d'un trajet au boulot. Pas de prise de tête ou de choses compliquées, l'objectif est de rendre l'information accessible à tous. N'hésitez pas à noter et commenter cet épisode sur vos plateformes d'écoute et à le partager. C'est important et cela incite à continuer. Suivez également mon travail sur ma page Instagram agile.training et mon site internet agile-training.club. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois un profil un peu différent de ce que j'ai d'habitude, Clément Goudin qui est haltérophile, on peut dire ça comme ça, mais je vais te laisser te présenter un peu plus en détail.
Ouais, alors je fais du powerlifting, pas de l'haltérophilie, donc le squat, le développé couché, le soulevé de terre. Et donc je suis coach et athlète. J'ai été champion de France en 2019 et voilà.
Voilà, c'est déjà pas mal, coach, athlète, et puis que ça parle un petit peu aux gens. Donc, c'est le SBD, squat, bench, donc développé couché, deadlift, soulevé de
Et
terre.
deadlift.
Et c'est quoi tes records là-dessus?
Au squat, mon meilleur squat, c'est 262,5 kg. Au développé couché, 190 et au soulevé de terre, 300.
Ok. Bon, qui de plus pertinent pour parler de la force que quelqu'un qui lève aussi lourd? Et justement, toi, tu as la particularité d'être à la fois athlète et coach, et ça fait longtemps que tu fais un petit peu les deux, enfin, ou beaucoup les
Ouais,
deux hein,
ça fait.
d'ailleurs.
Athlète, ça fait plus de. Enfin, ça va faire 10 ans en compétition. Mais ça fait plus de 15 ans que je pratique et avant je venais du judo. Et en tant que coach, une petite dizaine d'années, on va dire. Donc au début, tu sais, tu coaches un peu les gens de ta salle, tu donnes des conseils, enfin, tu sais, c'est à petite échelle. Et puis après, petit à petit, ça s'est développé et c'est passé à plus grande échelle. Et maintenant, c'est mon travail à temps plein depuis presque 2 ans.
Ok. Oui, bon, on a tous commencé comme ça, hein, avec le
Donc,
copain, avec la relation du copain, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est
exactement.
normal. Et même si on va parler de force, je vais te poser la question pile rouge, qui est ta définition de l'endurance à toi en quelques mots.
Ça va être plutôt la capacité à maintenir quelque chose, maintenir un effort. Et dans le cas de la force et du développement de la force, ça va plutôt être la capacité à maintenir un niveau et un volume d'entraînement sur la durée, donc sur une année ou sur 5 ans ou sur 10 ans. Parce que de la même manière que le volume d'entraînement en course à pied, course à pied, sport d'endurance, etc., il est essentiel. Le volume que tu vas pouvoir accumuler sur tes principaux mouvements, il est essentiel dans ta progression pour améliorer la qualité de tes patterns. Plus tu vas être, plus tes capacités d'endurance vont être élevées, mieux tu vas pouvoir, a priori, accumuler ce volume d'entraînement et rentabiliser ce volume d'entraînement, et plus tu pourras devenir fort. Donc, ça, c'est intéressant dans une certaine mesure de développer tes capacités d'endurance, même pour être fort.
D'accord, ok. Et c'est vrai que si je ne me trompe pas, en sport de force, il y a souvent le grand débat entre... Un grand débat. La fréquence et le volume. Des fois, il y a des schémas, ce qu'on appelle l'hyperfréquence, je crois, dans les sports de force, où tout le monde n'est pas d'accord un petit peu là-dessus. Et tu peux en dire un peu plus là-dessus?
Ouais, alors. Le volume et la fréquence, voilà, y a des débats un petit peu là-dessus, mais c'est aussi beaucoup l'opposition volume-intensité plutôt. Parce que plus tu vas avoir de fréquence, plus ça va être facile d'accumuler du volume. Je dis n'importe quoi, mais si tu fais du squat 3 fois dans la semaine, ça va être plus facile d'accumuler 15 séries de squats dans ta semaine en faisant 3 fois, en faisant 5, 5, 5, que d'accumuler 15 séries de squats en faisant qu'une seule fois dans ta semaine. Auquel cas, tu vas avoir une séance de 15 séries qui sera indigeste et tu vas sans doute pas le rentabiliser. Après, ça va plutôt être l'intensité, c'est-à-dire que si tu montes très haut en pourcentage en mettant très lourd à chaque fois, l'impact va être un peu supérieur et donc sans doute que le volume que tu pourras accumuler sera un peu moindre. Et c'est là toute la difficulté du coaching, c'est de moduler les différentes variables entre le fréquence, le volume et l'intensité pour coller aux besoins de ton athlète, à ses besoins du moment, mais aussi à son niveau et aussi à sa disponibilité.
Ok. Et que les gens et moi-même comprennent, vous avez combien de compétitions par an, par exemple?
Bah, ça va dépendre des gens, mais 2 à 3 compétitions par an, c'est bien. Moi, je sais que j'aime bien, à titre perso, après ça fait longtemps que je suis dans le circuit, en faire 2 pour avoir, en gros, quand je sors d'une compétition, j'ai 5-6 semaines pour me remettre. 1 mois et demi, enfin me remettre nerveusement, les petits bobos qui peuvent apparaître, etc. Parce que bah, c'est quand même un petit peu traumatique d'aller chercher des charges très lourdes. Ensuite, avoir 2, 3 mois de développement et ensuite avoir 2 mois de phase un petit peu d'affûtage. Alors après, les phases d'affûtage peuvent être un peu plus courtes, ça dépend des gens. Et grosso modo, une compète tous les 6 mois, c'est un bon rythme, je trouve.
Ouais,
Après,
et
quand
ça.
j'étais plus jeune, j'en faisais allez, 3-4 dans l'année, quoi. Je pouvais en faire un peu plus. Mais tu progresses plus vite, tu récupères mieux. Tu sais, dès que tu sors de la compétition, tu peux tout de suite retourner au charbon et voilà. Alors que maintenant, je sens qu'il va me falloir 15 jours où je ne vais pas faire grand-chose. Et ensuite, remonter progressivement en volume, en intensité, etc. Recréer de la
Ouais,
capacité.
on voit l'expérience. Et pour la petite parenthèse, tu interviens aussi dans le podcast Super Physique avec Rudy Koya. Et on voit, je me moque pas parce que je suis pareil, on voit les vieux aussi sur certains cas de figure. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et j'aime beaucoup la définition au début de ce que tu disais de l'endurance et durée sur les années. Et là aussi, on voit que manager ses compétitions, sa récupération, sa préparation, parce qu'une compète, ça a un coût physique, n'importe quelle compétition que tu fasses, dans un sport individuel en tout cas. Et ça a un coût nerveux aussi, donc ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Et ça va m'amener à la première question, justement sur l'endurance. Alors je pense qu'il y a aussi une notion d'endurance spécifique au sport, hein, de lever souvent des poids pour la technique, pour l'endurance, pour tout. Et il y a quelque chose qui est de plus en plus peut-être en vogue, en tout cas quand moi je suis de l'extérieur, hein, la force, je m'y intéresse parce qu'il faut s'intéresser à tout pour progresser, on a à apprendre de partout. Mais de plus en plus, on a ce qui est appelé par les forceux la zone 2, enfin par beaucoup de monde, mais en tout cas ça a été intégré comme ça, donc des séances à basse intensité. Et ton avis un peu là-dessus, est-ce que c'est vraiment fondamental? Est-ce que c'est facile à placer? Est-ce que techniquement ça apporte quelque chose? Ça apporte pas quelque chose? Parce qu'on sait tous que la spécificité, c'est quand même la base. Hein. Je le dis souvent, hein, Kipchoge, il s'entraîne pas en vélo, en natation. Après, il fait un peu de renforcement, mais voilà. Après, sur d'autres sports, il peut y avoir des sports croisés, mais ça reste quand même la spécificité qui est au centre de pas mal de sports. Et dans le cadre du powerlifting, qu'est-ce que t'es, c'est un peu ton avis là-dessus?
Bah, moi je suis quelqu'un qui fait pas mal justement de travail d'endurance à côté et de travail cardiovasculaire à côté. Alors après, j'aime pas forcément l'estampiller zone 2, etc. parce que je considère qu'à mon échelle et à mon niveau cardiovasculaire, ça n'a pas forcément d'intérêt d'aller prendre des data, de prendre mon rythme cardiaque, etc., etc. Donc je le fais vraiment à la sensation. Et c'est très bien comme ça. Puis j'ai suffisamment de contraintes dans mon entraînement pour pas en rajouter une de plus sur un truc secondaire. Mais par contre, ouais, moi j'ai vu ça fait bientôt 2 ans là que je l'ai intégré de manière au début une fois par semaine et ensuite je passais à deux. Et j'ai vraiment vu des gros bienfaits sur mes capacités de récupération, sur mon sommeil et ma capacité de récupération dans les séances, mais entre les séances aussi, et sur ma capacité à accumuler du volume. C'est-à-dire que ça m'a permis de réaugmenter un petit peu mon volume d'entraînement sur le spécifique. Donc cette base d'endurance m'a permis de mieux rentabiliser ce que je faisais en spécifique. Avant, je m'entraînais en fait 5 fois avec du spécifique, 5 fois par semaine. Et je suis passé au début à 4 de spécifique plus une séance annexe axée développement cardiovasculaire. Et en fait, ça m'a permis de mieux rentabiliser ce que je faisais parce que je récupérais plus assez bien des 5 séances que je faisais avant. C'était trop. Je te rejoins sur la spécificité, c'est-à-dire que bah, tu vois, tu prends l'exemple de Kipchoge par exemple. Kipchoge, il fait que courir, il ne fait pas d'entraînement croisé, mais peut-être parce qu'il n'en a pas le besoin et qu'il est capable de courir, je ne sais pas combien il court, peut-être 200 km par semaine sans avoir de problème particulier. Après, si tu es quelqu'un qui, au bout de, je sais pas moi, 150 km, tu as mal au genou, tu as mal à droite, à gauche, et que tu veux augmenter ton volume, bah, tu vas devoir passer par le biais de l'entraînement croisé. Et moi, ça a été utile de passer par ce biais-là de l'endurance pour développer ma capacité de travail et donc du coup faire réaugmenter mon volume de spécifique par la suite, dans un deuxième temps.
Ouais, je comprends tout à fait. Et là, par exemple, justement, tu disais que maintenant, tu étais passé à 2 séances de basse intensité dans la semaine en maintenant ton rythme de 4 séances spécifiques. Donc, en
Ouais,
fait,
c'est ça.
ma question, elle est, y a pas vraiment de réponse, mais c'est plus une réponse de vieux briscard, comme tu vas pouvoir me donner. C'est est-ce que tu crois pas. Parce qu'en fait, on dit toujours la basse intensité, ça a plein de vertus. Alors, moi, je suis le premier à le penser, hein, mais est-ce que le fait que ça t'aide à le faire, c'est pas aussi que finalement, tu as une séance de plus dans la semaine. Tu t'es passé à 6 séances et tu t'entraînes plus.
Ouais, après, c'est pas tout à fait la même chose et le même impact. C'est-à-dire que bon, tu te mets sur... Alors après, moi, je fais sur ergo, parce que bon, je fais 95 kilos et je suis pas trop à l'aise en course à pied. Et si je voulais reprendre la course à pied, il faudrait vraiment... Alors, si je le fais, je mets des petites phases de run, tu vois, dans mes séances, parce que je fais des modalités croisées avec différents ergos et un tout petit peu de course, mais sur des petites distances, parce que si j'allais courir longtemps... Bah, au niveau articulaire, c'est pas terrible pour moi. Et l'impact sur les articulations, etc., il est moindre. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toi, mon entraînement, par exemple, où je fais du squat 3 fois dans la semaine, mon squat le plus léger de la semaine, il est à 190 kilos. Et c'est du volume. Donc, si tu veux, si je remettais une séance de squat en plus, ça ferait 4 dans la semaine. À nouveau, je me remets sur ce type d'intensité et avec un impact au niveau ostéo-articulaire, au niveau musculaire, qui est quand même supérieur à faire 45 minutes de zone 2 sur un bike air. Donc, du coup, tu te retrouves à créer des contraintes. C'est des contraintes qui sont quand même un petit peu supplémentaires. Et l'avantage aussi, c'est que ça me permet d'avoir un petit peu de variété dans mes mouvements. C'est-à-dire que bon, ben, le développement de la force, donc c'est beaucoup de squats, beaucoup de développé couché, beaucoup de soulevé de terre, quelques mouvements de musculation annexes, mais finalement, tu n'as pas beaucoup de variété de mouvements, tu es toujours dans le plan sagittal, etc. Et le fait de mettre des mouvements qui vont sortir un petit peu de ce pattern et de remettre de la variété de mouvements, ça te permet aussi de retrouver d'autres amplitudes articulaires, de travailler sur d'autres amplitudes articulaires. Et aussi de limiter un petit peu les risques de blessure et d'avoir une petite phase de prévention des blessures.
Ouais, c'est ce que vous, c'est rigolo, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre que vous appelez le renforcement musculaire, c'est-à-dire que enfin, j'ai cru comprendre ça une ou deux fois qui est pas dans le spécifique, alors que sur un sportif d'endurance, moi, le renforcement musculaire, c'est dès que tu vas faire une pompe, un squat, n'importe quel mouvement, c'est du renforcement. Et vous, ce que j'avais cru comprendre, si je me trompe pas, c'est qu'il y a le spécifique et tout ce qui est annexe, c'est le renforcement pour mieux encaisser le spécifique.
Ouais, c'est ça, c'est pour contrebalancer un petit peu. Après, le problème, si tu veux, c'est que quand tu fais du développé couché, alors le développé couché, c'est le mouvement où il y a le plus de fréquence et le plus de volume. Il n'est pas rare d'avoir du développé couché 4 fois dans la semaine avec 15 à même plus de 20 séries par semaine pour certains athlètes, tu vois. Donc, tu as énormément de travail de poussée avec des charges relativement lourdes. Si tu veux contrebalancer ça en développant tes muscles antagonistes, donc les muscles du dos, il va falloir que tu fasses énormément de séries de tirage. Mais le problème, c'est que bah, en termes d'intensité, tu ne compenseras jamais tout ce que tu fais au développé couché, sachant que tu es déjà plus fort au développé couché. Donc en fait, tu vas limiter un petit peu la casse en venant renforcer le dos, renforcer les fixateurs de omoplates, etc. Pour justement éviter d'avoir une position qui vienne complètement se voûter vers l'avant et de rentrer dans trop de spécifiques parce que c'est toujours la balance en fait entre plus tu es spécifique, plus tu vas être performant, mais aussi plus tu vas être spécifique, plus tu vas flirter avec la blessure et sur la corde raide et plus tu vas, bah, quand tu es blessé, tu progresses pas. Donc parfois il faut savoir faire des choses qui te font pas progresser directement, mais si ça te permet de pas te faire mal. Bah, indirectement sur le long terme, à 1 an, 2 ans, 10 ans, ça te fait progresser de pas te blesser, en fait.
Ok. Ouais, et justement, j'avais vu l'autre fois, tu avais partagé un truc, enfin, spontanément, c'est vrai que ça me paraissait cohérent. Enfin, par rapport à l'endurance, hein, par rapport au powerlifting, j'aurais pas d'avis pour te dire ce qui est cohérent ou pas, mais. Tu avais fait du circuit training, alors sur machine guidée, enfin
Ouais.
en modalité mixte avec aussi de l'ergo à côté. Et ça, par exemple, quand tu parles de basse intensité, ça peut être aussi du circuit training à plus basse intensité qui te permet de bosser le métabolisme et des mouvements complémentaires.
Je l'utilise pas forcément comme ça.
OK.
Je pourrais le faire, mais je l'utilise pas forcément comme ça parce que, alors là, c'était un cas un peu spécial parce que j'avais une douleur au cervical qui m'empêchait de m'entraîner vraiment normalement. Donc du coup, j'avais choisi cette modalité-là pour, en un temps assez court, faire une activation globale, effectivement, quelque chose de métabolique, etc. Et là, c'était un cas un peu spécifique. Mais dans mon entraînement normal, je n'utilise pas forcément le circuit training en modalité croisée, même si effectivement ça peut être une modalité intéressante. L'inconvénient, si tu veux, c'est que en faisant ça et avec des séries très longues, là on est vraiment que sur de la pure prévention des blessures. Mais pour que les exos de musculation que tu mets en place, ils soient vraiment utiles, il faut qu'il y ait quand même une certaine intensité dessus. C'est-à-dire que si je fais une série d'un exercice, je sais pas, une extension triceps en série de 20, sans forcer, sans avoir aucune contrainte, etc., etc., l'impact que ça va avoir, il va être quasiment nul, en fait. Donc, ça va me représenter une dépense énergétique, un coût de fatigue, mais sans réel bénéfice. Donc, cette modalité du circuit training, elle peut être envisageable peut-être sur un hors-saison ou des choses comme ça. Mais elle n'est pas forcément, enfin, dans le cas d'un athlète, enfin, powerlifting, mais elle n'est pas forcément utile et rentable pour des gens comme nous. Après, pour un coureur à pied, ça justifie totalement parce que bah, là, ça va être un effort qui, pour le coup, sera peut-être un peu plus spécifique à sa recherche. Ça va lui permettre de toucher un grand nombre de machines en très peu de temps, etc. Et il ne va pas avoir besoin de monter à une charge très, très lourde en termes d'intensité pour contrebalancer ce qu'il fait. Encore une fois, moi, bah quand je fais un squat à plus de 200 kilos, si je veux contrebalancer avec un exercice d'assistance et que je mets 15 kilos, je vais rien contrebalancer du tout, en fait.
Ouais, je vois tout à fait. Et tu t'amènes une transition, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, mais tout trouvé par rapport à ma question suivante là-dessus, c'est que justement, dans les sports d'endurance, de plus en plus, on entend qu'il faut faire de la force. Alors oui, non, ça dépend ce qu'on englobe avec la force déjà, qu'il faut faire des charges lourdes, parce que techniquement, c'est ce qui fait progresser. Après, enfin, selon les études, en tout cas, c'est ce qu'on entend de plus en plus. Sauf que moi, ce que je trouve, tu me diras si je me trompe, c'est que je pense que de lever des charges lourdes, ça a un impact nerveux, physique, parce que lever lourd, si on n'est pas armé pour, alors bien sûr que si Kipchoge se met au squat, il ne va pas faire 220 kilos, mais n'empêche que c'est quand même des charges qui sont assez lourdes. Et derrière, je trouve que ça peut être le même impact que toi si tu vas faire un footing, parce que c'est une activité pour laquelle tu n'es pas faite. Et je voulais un petit peu ton avis là-dessus et sur autre chose, comme ça tu auras le temps de développer. Parce que j'ai eu la discussion au printemps sur un projet qui n'a pas abouti, parce que ce n'était pas ma philosophie. Sur un sport d'endurance, c'est l'haltérophilie, donc les mouvements d'haltérophilie, l'arraché, le jeu de vecteur, enfin tous ces mouvements-là, le clean, toutes ces choses-là, c'est de plus en plus en vogue dans les sports d'endurance parce qu'a priori, je dis bien a priori, c'est le seul moyen de développer la puissance et des choses comme ça. Et moi, je suis pas forcément OK avec ça parce que je trouve que déjà ton extension, elle est verticale, mais pas vers l'avant, la première chose, et que finalement, les mouvements d'haltérophilie, c'est un outil parmi d'autres, mais pour moi, ça reste pas la seule voie, en tout cas, pour développer de la force et du renforcement sur des sportifs d'endurance. Donc, je me suis dit, qui de mieux qu'un spécialiste de ces mouvements pour venir parler de ça?
Bah encore une fois, toute une histoire de ratio coût-bénéfice. Et toujours ça. Et quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est de courir plus vite? Alors du coup, si ton objectif, c'est de courir plus vite, je suis pas sûr que de énormément augmenter ton RM au squat, ce soit forcément pertinent et utile. Faire du squat et avoir du renforcement, etc., pour avoir un moyen fessier un peu plus solide, pour mieux monter pour les trailers, etc., etc. Faire du travail en fente pour avoir un peu plus de force en unilatéral, etc. Ça me semble être pertinent et je comprends tout à fait. Après, de la même manière que tu vois, moi, j'ai un niveau cardiovasculaire qui est pas très haut et donc du coup, simplement en faisant 45 minutes, 1 heure de zone 2, 1 à 2 fois par semaine, sans forcer, ça suffit pour développer un peu ma capacité, parce que ma capacité, elle est relativement médiocre. J'ai pas besoin de faire plus, en fait. Et en termes d'intensité, bah, mon intensité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la mettre sur mes entraînements de force. Mais de la même manière, pour un mec qui fait de la course à pied ou du vélo ou peu importe, il faut pas qu'il se trompe d'objectif. Son objectif, c'est de courir vite ou de courir longtemps. Donc, son intensité, il faut qu'il la mette sur autre chose et il n'a pas besoin d'aller sur des charges très très lourdes pour développer sa force, puisque sa force, elle est relativement basse. Et je pense que faire des séries de 8, 10, 12 sur des mouvements relativement simples, en unilatéral par exemple, ou avec de la kettlebell ou avec j'en sais rien, ce sera amplement suffisant pour développer ses niveaux de force, prévenir un petit peu des blessures et que bah, dans les montées ils se sentent mieux, que dans les descentes ils subissent un petit peu moins, etc. Et je pense que ça c'est amplement suffisant. Et travail de force, ça veut un peu tout dire et rien dire. Tu vois, quand tu fais du travail de pied ou de la qualité sur ta course, etc., quelque part c'est déjà un petit peu du travail de force, mais du travail de force spécifique et pas forcément du travail de force adapté à la musculation. Augmenter ton 1RM au développé couché pour un mec qui fait du trail, je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. Après, ça peut être un objectif secondaire parce que ça te fait plaisir, mais en termes de performance pure, ça n'a pas de sens. Et pour le cas de l'haltérophilie, alors l'haltérophilie, c'est très bien, mais le problème de l'haltérophilie, c'est que c'est assez complexe et le temps que tu mets à rentabiliser les exos d'haltérophilie, c'est long. C'est-à-dire que tu as un temps d'apprentissage de 6 mois, 1 an, 2 ans, en fonction de comment tu es encadré et de combien de temps tu y passes et de quelles sont les ressources que tu y mets. Et en fait, ce temps d'investissement, bah, tu mets énormément de temps à le rentabiliser. Donc, je suis pas forcément fan. C'est bien en prépa physique pour certains sports où tu veux développer de l'explosivité et tout, effectivement, c'est bien. Mais je dirais que c'est surtout bien quand tu as le temps ou avec des jeunes, en éducatif, etc., etc. Et c'est une porte d'entrée. Et ensuite, tu vas pouvoir le développer sur toute la carrière. Un mec qui aurait une trentaine d'années et pas de gros bagages haltéro, peut-être pas la mobilité, parce que bah, y a aussi cette réalité, c'est que les runners ou les cyclistes et tout, c'est pas forcément des mecs archi mobiles. Et qu'en haltéro, si t'es pas mobile, tu risques de pas arriver à bien faire les mouvements et sans doute de te faire un petit peu mal. Bah, ils vont mettre beaucoup de temps à rentabiliser ce qu'ils font. Beaucoup d'investissements avec un risque de blessure qui va être accru. Et donc, du coup, effectivement, tu as peut-être plus rentable pour développer l'explosivité. Peut-être du travail avec élastique, peut-être du travail de pliométrie, peut-être du travail de sled, etc., etc. Là, ça va être intéressant, peut-être plus rentable et plus rentable plus vite. Donc voilà. L'haltéro, c'est intéressant, mais si tu maîtrises déjà, si tu maîtrises pas l'haltéro en prépa physique, en PPG, ça met du temps en fait à être utile et rentable.
Ouais, parce qu'il y a une grande dimension technique, forcément, là-dedans.
Technique et mobilité. Et même peut-être, on discutait un petit peu là quand je parlais du vélo, etc. Et que tu me disais, bah, avec du travail à la kettlebell, du circuit training et tout, tu pourrais, enfin pour moi, mettre en place, enfin tu sais, développer un petit peu ta qualité cardiovasculaire et tout. Mais bah, c'est un petit peu pareil, tu vois. C'est-à-dire que moi, la kettlebell, je ne suis pas très à l'aise avec. Me coller sur un vélo et tourner les jambes pendant 45 minutes, ça a un coût qui est faible en termes de concentration, d'énergie, et ça demande un niveau technique zéro, parce que tourner les jambes, tout le monde peut le faire. Alors que la kettlebell, ça va mettre quand même des petites contraintes articulaires, même si elles ne sont pas énormes. Il y a un coût technique et d'apprentissage technique. Et quand tu ne maîtrises pas un mouvement, tu ne peux pas maîtriser le pacing sur le mouvement. Tu vois? Je peux faire du vélo tranquille. Par contre, je nage très mal, je ne peux pas aller faire de la zone 2 en piscine parce qu'au bout de 25 mètres, je vais être essoufflé. Tu vois. Et ben, la kettlebell, c'est un petit peu la même chose. Et le circuit training, c'est un petit peu pareil. C'est plus dur dans le circuit training, tu sais, tu te laisses plus facilement embarquer. Et donc, en fait, tu sors de ton intensité cible.
Alors ça fait vraiment sens ce que tu dis hein, par rapport à tout ça. Et justement, pour faire la parenthèse sur la kettlebell, moi, pour bosser ce qui se passe au niveau des ischio-fessiers, enfin, en tout cas de l'extension de hanche vers l'avant et tout, j'ai beaucoup bossé avec chez les skieurs parce que je le trouvais plus rentable en termes de coût, enfin, temps d'investissement, bénéfice, que d'apprendre à faire justement un arraché ou quelque chose comme ça. Pour finalement, alors c'est pas exactement la même chose, mais en tant que mouvement support à une discipline, tu vois, ça reste ça reste pas d'augmenter son ARM, d'augmenter ci ou ça. Je trouvais que le temps était plus rapide d'apprentissage par rapport à ça et qu'il y avait une notion de cardiovasculaire qui était plus intéressante parce que tu peux intégrer des swings dans un circuit assez facilement. Tu peux intégrer les arrachés, mais tu vois bien, c'est plus
Bah,
compliqué.
c'est sûr, bah, le coût d'apprentissage, il est moindre, ça c'est sûr. Après, le swing, il est facilement accessible. Malgré tout, tu vois, après, dans l'haltéro, le mouvement d'arraché pur, effectivement, il est technique et tout. Malgré tout, il y a certains semi-techniques. Par exemple, juste faire un tirage d'arraché, tu vois, faire l'extension complète, etc., etc. C'est un coût qui est un petit peu moindre, mettre des arrachés debout ou juste faire de l'épaulé debout, etc. Si tu regardes les mecs qui font de l'athlétisme, par exemple, les lanceurs, par exemple, ils font pas de jeté, presque jamais. Les mecs, ils font de l'arraché debout, de l'épaulé debout, même ils font beaucoup d'arraché en fente, qui est une variation, enfin, un semi-technique ancien, tu vois. Mais ils font pas forcément le mouvement de compétition parce que ça a pas vraiment d'intérêt pour eux. Et même dans leur réalisation, moi, je suis pas mal de mecs des lanceurs de javelot. Quand tu vois ce qu'ils font en musculation, tu sais, quand ils font le pullover, ils le font hyper triché en allant très loin, etc., etc. D'un point de vue musculation pure, tu vois ça, tu te dis, oh là là, il va se tuer et tout. Et en fait, non, eux, ce qu'ils recherchent, c'est purement le transfert force-vitesse. Et en haltéro, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que l'haltéro, ça va être une base support, entre guillemets. Et après, bah, t'as toute la nomenclature des variations qui existent et tu en as une quarantaine à ta disposition que tu peux utiliser, tu vois, en allant segmenter des parties de mouvement qui t'intéressent. Et ça peut être pertinent. Mais le développement de l'haltéro à proprement parler, pour beaucoup de sports, c'est inutile, quoi.
Ouais, je pense que l'intérêt pour moi serait surtout sur la coordination musculaire. Et c'est pour ça que tu pars chez des jeunes sur des charges légères, ça peut être intéressant, comme d'autres outils peuvent l'être aussi. Et justement, je vais faire appel à ton expérience de coach de force. C'est la question piège, hein, mais admettons que demain, tu as, je sais pas, des skieurs de fond, des trailers, tout ce que tu veux. Après, le choix des mouvements haut et bas du corps, c'est un peu autre chose. Quel type de renforcement musculaire au sens large tu pourrais leur conseiller? Quelle modalité, tu vois, tout ce genre de
Effectivement,
choses-là?
c'est une bonne question. Bah déjà, je différencierais quand même pas mal les skieurs de fond des trailers, parce que je dirais que c'est pas tout à fait le même effort, déjà lié aux impacts et tout. Pour le trailer, je pense qu'il faut vraiment beaucoup travailler sur de l'unilatéral et tout. Et puis, tu as beaucoup d'instabilité au niveau des appuis et tout ça. Ça monte, ça descend. Donc, beaucoup de travail axé sur des fentes, des step-up, des choses comme ça en unilatéral. Je pense que c'est assez important. Et beaucoup de travail sur le gainage, l'activation des obliques, etc. Moyen fessier, parce que c'est souvent qu'il y a des blessures là-dessus. Et je pense que là, ça serait très 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 pertinent, je pense, tu vois, d'aller là-dessus. Sur le haut du corps, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de enfin qu'il y ait d'énormes besoins, et je pense que un petit circuit training avec des exos de base, tu vois, un petit peu de tirage horizontal, un petit peu de tirage vertical, pareil sur les développés, un développé vertical, un développé horizontal, pas forcément sur des charges lourdes, tu vois, mais sous forme de circuit training avec des haltères ou même sur machine, je pense que c'est tout à fait pertinent. Et pour le skieur de fond, je pense, là, spontanément, je dirais que, y a une importance du haut du corps qui serait un peu plus intéressante. Si tu as une force de poussée qui est meilleure, notamment au niveau triceps et tout, parce qu'il y a quand même un gros mouvement avec les bâtons, donc triceps, dos, pec, je pense que là, d'avoir une. Si tu es un peu plus fort sur ces mouvements-là, a priori, tu vas avoir une meilleure efficience sur ton mouvement. Donc, il faudrait analyser un petit peu quels sont les mouvements les plus pertinents, mais du pullover, de l'extension triceps, etc. Je pense que là, ça serait intéressant parce que bah, si tu es plus fort là-dessus, tu vas être plus économique dans ton mouvement et dans le développement de ce que tu fais, en fait. Ça va être, enfin, le coût physique va être moindre et donc, du coup, tu pourrais être plus économique dans ton mouvement. Donc j'irai peut-être un peu plus sur du renfort du corps un peu plus poussé et pour le coup peut-être un petit peu moins de travail bas du corps parce qu'il y a moins d'instabilité sur le bas et je pense, alors tu connais mieux les activités que moi, mais qu'il y a moins de blessures au niveau genou, au niveau hanche, etc. dans le ski de fond que dans le trail.
Ouais, a priori, oui, hormis en préparation quand ils vont courir. Mais par contre, tu as vraiment résumé, par exemple, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de skieurs qui vont nous écouter, mais En fait, on appelle ça de la poussée sur les bâtons, mais en fait, c'est un tirage. Tu tires, en fait, tu as tes bâtons devant toi et tu tires dessus. Donc, les triceps sont vraiment activés. Et justement, et les dorsaux aussi, évidemment. Et justement, pour ce genre de travail-là, autant sur le coureur, tu disais pas forcément de charge lourde en circuit training, en choses comme ça. Est-ce que pour développer la force dans le cas d'un skieur de fond, par exemple, mais peut-être les gens qui font du CrossFit ou de la Spartan, on peut peut-être s'y retrouver hein, là-dedans, dans l'idée générale. Est-ce que tu irais sur des charges plus lourdes ou sur quel genre de modalité?
Je pense que oui, j'irai quand même sur des charges un peu plus lourdes pour le skieur de fond, dans la mesure où je pense que le trailer, il gagnerait à être le plus léger possible et à avoir le moins de masse musculaire possible parce que bah, ça lui en fait moins à trimballer. Alors que le skieur de fond, je pense quand même qu'il a besoin d'en avoir un peu plus que le coureur, a priori, je dirais, notamment sur le haut du corps. Donc, alors, pas forcément sur du développement de un RM et tout, mais ouais, d'aller sur des charges un tout petit peu plus élevées pour avoir quand même une phase de développement. Je pense que sur le trailer, avoir une phase de développement sur les mouvements, ça se justifie pas forcément. Par contre, chercher à augmenter un petit peu, sans les tester, mais tu vois, aller augmenter un 10 RM ou augmenter un 5 RM, par exemple, pour que ça se transfère sur le reste de ton activité, je pense que ça serait intéressant pour un skieur de fond. Plus que pour un trailer où, à mon sens, tu mets du renfo, tu essayes d'augmenter le volume que tu mets sur une certaine unité de temps. Par exemple, je sais pas, moi, il fait 200 reps en 15 minutes, bah, tu essayes de lui augmenter petit à petit, de passer à 210, 220, etc. pour aller augmenter ça, pour quand même induire une notion de progression et que ce soit un peu plus fun pour lui et que ça ait un intérêt. Mais en limitant les contraintes, alors que sur le skieur de fond, je pense que ça serait peut-être plus intéressant d'avoir une phase de développement. Là, comme ça, spontanément, je dirais ça.
Ouais, mais je suis plutôt raccord avec toi et moi je suis aussi là pour apprendre des choses. Donc tu vas me dire si aussi je suis dans le faux. Moi je suis la plupart des amateurs que j'ai maintenant sur les équipes de France avant c'est autre chose parce que tu as plus le temps. Mais je vais rarement sur des charges lourdes. En fait j'ai un système très simple qui est charge légère, moyenne et lourde. Et pour moi le léger c'est ce que tu peux faire 15 fois techniquement juste. Le moyen, c'est ce que tu peux faire 10 fois. Et le lourd, pour moi, c'est ce que tu peux faire 5 à 6 fois. Et je descends jamais sur plus lourd que ça. Parce que déjà, un, la contrainte, c'est que on parle toujours de ton 1 RM, mais pour tester ton 1 RM, il faut déjà être à l'aise sur le mouvement. Il faut déjà l'apprendre. Et pour mettre lourd sans se péter, il faut quand même du temps. Et globalement, je trouve que l'impact peut être largement suffisant sur des charges. C'est que tu peux lever 5-6 fois lourd pour le faire régulièrement. Ça a déjà de l'impact hein, quand tu dois retourner courir.
Bah, ça c'est sûr. Et puis il y a aussi simplement qu'il y a des mouvements qui sont pas faits pour tester des 1 RM, tu vois. Tu as certains mouvements comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre et d'autres où ça se prête assez bien de tester un 1 RM, mais tu as des mouvements où ça se prête pas du tout. Et toi par exemple, spontanément, je dirais que des mouvements type pullover, ça serait intéressant pour le skieur de fond. Tu peux pas tester un 1 RM sur un pullover et même faire un 5 RM ou 6 RM sur un pullover, ça me paraît très risqué. Et pas forcément pertinent, tu vois. Donc, non, là, pour le coup, quand je dis développement de la capacité, oui, ça va être faire du 6, 8, 10, 12, 15 reps, ça suffit, en fait. Ça suffit amplement. Peut-être que d'aller sur 15, pour le coup, tu développes un tout petit peu moins tes capacités de force. Mais encore une fois, c'est des gens qui ont un niveau de force, entre guillemets, tellement bas que rien qu'en faisant de la série de 10, tu vas augmenter son niveau de force. Tu prends une mamie de 60 ans, tu la mets juste sur un vélo, tu vas augmenter son niveau de force sur du squat. Tu vois, en faisant du vélo, tu vas la faire progresser au squat. Et bah, de la même manière, un skieur de fond qui n'a pas un gros haut du corps et qui n'a pas un gros niveau de force, en lui faisant faire des séries de 8, 10, 12, bah, son niveau de force, ça suffira pour mettre son niveau de force à un niveau suffisant par rapport à ses besoins. Donc, ce n'est pas forcément la peine de prendre le risque d'aller sur du 4, 5, 6 reps, d'autant qu'il y a le facteur technique et le facteur est-ce que le mouvement se prête à mettre lourd.
Ouais, je vois tout à fait. Et bon, sur les skieurs, il y a les deux profils. Les sprinteurs sont quand même vraiment costauds, les distanceurs aussi, mais pas aussi costauds qu'un athlète de force, évidemment. Et justement, tu dis le risque. Et le risque, il y a le coup nerveux, il y a les choses comme ça. Et je veux un petit peu revenir quand même sur les gens parce que je suis vraiment pas à l'aise avec cette notion que je lis de plus en plus. Il faut mettre du lourd pour l'endurance. Alors peut-être, Mais quand tu mets du lourd, tu as des contraintes ostéo-articulaires qui sont quand même vraiment énormes. Et est-ce que ça serait pour toi une des limites justement de mettre du lourd chez des athlètes d'endurance qui ne sont pas forcément prêts à l'encaisser, même si ils vont le faire moins souvent qu'un athlète de force, même si la charge sera moins lourde. Mais n'empêche que foutre 100 kilos sur le dos d'un athlète d'endurance, ça fait quand même une charge sur la colonne, si je ne me trompe pas, qui est quand même pas négligeable.
Bah, encore une fois, il y a une plasticité des tissus. Le corps s'adapte à plein de choses, mais il s'adapte à un certain rythme et dans une certaine mesure. Donc, si le mec, tu lui mets très très rapidement 100 kilos, ça risque de pas être terrible. Après, si tu fais une surcharge progressive sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, en allant vraiment tranquille, a priori, ça va être sans grande conséquence parce que bah, même si c'est pas un gros gabarit, 100 kilos pour un corps humain, ça reste une charge relativement tolérable, tu vois. Mais il va falloir y aller progressivement. Par contre, effectivement, l'intérêt pour un trailer, un mec qui fait du 100 bornes, d'aller faire 100, 120, 130 au squat, là, comme ça, je le vois pas forcément, en fait. Je pense que pour lui, de faire du squat une fois dans la semaine en série de 6 à 12, à la limite sur un hors-saison, tu peux chercher à augmenter son 5-6 RM et lui faire faire des séries comme ça, parce que ça va lui donner une base de force qui va être transférable et intéressante. Je pense que c'est bien, mais aller faire du vrai 1 RM, je suis pas sûr que ce soit pertinent, sauf peut-être pour le plaisir. Et puis il y a des gens, tu sais, ça peut créer de la confiance, ça peut avoir un effet placebo. Ils peuvent se dire, ah, j'ai jamais été aussi fort au squat, donc du coup, j'ai jamais été aussi solide sur ça et tout. Et donc là, à la limite, ça peut se discuter, justifier, mais encore une fois, il faut le préparer, il faut que la technique soit bonne, et pour que la technique soit bonne sur un mouvement aussi complexe que le squat, peut-être que de faire du squat qu'une seule fois dans la semaine, ça va pas être assez. Mais sauf que si tu veux être efficient sur un 100 bornes, bah, tu n'as peut-être pas à la fois le temps et le coût que ça va représenter de faire du squat 2 ou 3 fois dans la semaine, même si c'est un petit volume, tu vois, de 2 ou 3 séries. Donc, c'est encore une fois, tout dépend de ton, bah, quel est le temps que tu as y dédié et ton ratio coût-bénéfice. Après, dans le trail, vous êtes habitué à avoir un très haut volume d'entraînement avec du 20-30 heures par semaine. Et donc, du coup, peut-être que sur le hors-saison, de faire 2 ou 3 séances de musculation, ça peut être pertinent. Mais encore une fois, il faut que le mec puisse le faire et il faut bien le préparer pour que le mec l'encaisse.
Mais en fait, ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est aussi une histoire de remettre les choses dans le contexte. Et je m'explique, parce que moi, j'ai connu les trois situations, des sportifs de haut niveau, des sportifs de bon niveau et des amateurs. Et chez un sportif de haut niveau, chez des jeunes, moi, j'avais des jeunes, effectivement, tu as le temps de construire quelque chose où il va pouvoir faire du squat parce que tu estimes que c'est nécessaire pour la performance dans l'entraînement. Et là, c'est un projet sur... Toi, tu disais c'est un ou 2 ans, et même nous, c'est sur 3 4 ans en fait que tu as des jeunes. Donc au début, tu apprends à charge légère parce que tu sais que leur projet de vie, c'est de faire du sport de niveau. Ils n'y arriveront pas tous, mais en tout cas, c'est qu'à un moment, s'ils veulent en faire, il faudra arriver à le faire. Donc dans ce cas-là, tu construis. Des athlètes de bon niveau, et j'ai le cas en trail, par exemple. Moi, les deux meilleurs coureurs que j'ai, c'est des gars qui facturent, ils sont autour de 750 en Cotitra, pour ceux qui connaissent, c'est pas mal. Enfin, c'est même plutôt bien. Ils ont un niveau qui est tel que, par exemple, s'ils vont faire une descente, parce qu'entre elles, l'enjeu, par exemple, c'est de résister à des descentes quand même beaucoup, ils sont habitués, ils peuvent la faire vite à l'entraînement, sans avoir trop d'impact sur cette charge excentrique. Ils sont habitués à le faire, ils sont placés correctement pour le faire. Donc, en fait, ils vont bien les encaisser et ils vont en tout cas progresser à l'entraînement en descente. Donc, eux font très peu de renforcement. Parce qu'ils ont un niveau qui est tel que si on leur enlève une séance de course, ben, ça va être une séance en moins, donc ils vont arrêter de progresser. Donc ils vont pouvoir faire du gainage, mais pas de bas du corps. Et par contre, s'ils étaient un cran au-dessus et quasiment pro, effectivement, peut-être que pour refranchir une step, tu pourrais le faire. Mais c'est tout une histoire de temps que tu peux accorder à ça. Et par contre, chez 90% des gens que je coach, eux, ils ont une séance de course qui saute ou qui se raccourcit pour faire du renforcement. Parce que pour la basse santé, en fait, eux, s'ils font une descente, ils ne l'encaissent pas comme quelqu'un d'expérimenté, déjà. Et pour pouvoir la descendre vite, en tout cas pour progresser dans la spécificité, ils ont besoin du renforcement pour être plus solide et pour pouvoir vraiment se remettre des séances, pour vraiment en tirer tous les bénéfices. Et c'est pour ça que Il y a pas, il faut vraiment toujours remettre les choses dans le contexte, de mon point de vue en tout cas. Et c'est pas parce que telle personne à haut niveau fait ça qu'il faut le faire au niveau en dessous et ainsi de suite. Et voilà. Enfin, en gros, voilà mon état d'esprit.
Clairement, déjà, quel est le temps, l'investissement et le niveau que tu as. Forcément, si tu as 10 séances dans la semaine, tu vas pas avoir le même contenu de séance que quelqu'un qui en a 4. C'est évident. Il y a des choses que tu vas pouvoir faire dans une situation et dans l'autre non. Et puis aussi les capacités de récupération, c'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment pro et qui ne fait que ça. Ou quelqu'un, tu vois, moi par exemple, je bosse énormément de chez moi, je fais beaucoup de travail sur ordi et tout, donc c'est pas très impactant en termes de récupération et je peux fractionner mon temps comme je veux, donc je peux, tu vois, rajouter un peu de mobilité par-ci, etc. La réalité, c'est que les gens qui ont un travail normal, entre guillemets, il y a plein de choses comme ça qu'ils peuvent pas mettre du tout en place, tu vois, le bi-quotidien, il y a des gens qui peuvent pas le faire, tout simplement, donc ça nécessite des adaptations. Donc déjà, quelle est la réalité de ton athlète, de ton client? Moi, j'ai des athlètes qui s'entraînent 3 fois par semaine, j'en ai qui s'entraînent 6 fois par semaine. Tu peux pas leur programmer la même chose. Et après, effectivement, selon le niveau de l'athlète, il y a des choses qui vont être utiles et d'autres pas du tout. Et il va y avoir des choses que tu vas devoir prendre. Tu vois, par exemple, tu parlais de la capacité à encaisser les descentes. Tu as des mecs qui ont un très bon niveau et qui sont habitués, et donc du coup, pour eux, le fait de le faire, c'est déjà en fait du renforcement musculaire en soi, et ils n'ont pas besoin d'en faire à côté. Par contre, il y a des gens, tu vas devoir prendre une petite porte dérobée pour les amener à ça, mais peut-être sur 2 ans, sur 3 ans. C'est juste qu'en fait, c'est un point d'entrée. Et encore une fois, on en revient à la notion d'individualisation et à l'importance de se faire accompagner et suivre, parce que c'est pas anodin de chercher à faire de la performance et ça se construit sur le long terme.
Ouais. Non, mais je suis vraiment d'accord avec ça et c'est vraiment un chemin vraiment à réfléchir. Et moi, le renforcement chez un sportif d'endurance, je le considère comme un entraînement croisé, en fait, ni plus ni moins. C'est quelque chose qui est complémentaire. Et c'est comme le vélo, comme la natation, comme tout ce que tu veux. Enfin, pour un coureur, hein, par exemple, c'est que par moment, l'entraînement croisé fait sens parce que on peut rajouter de la fréquence d'entraînement sans trop impacter, ou parce que c'est une porte dérobée en fait pour aider à progresser sur certains points. Mais c'est pas l'alpha et l'oméga. Dans certains cas, c'est indispensable, dans d'autres, c'est utile, et dans d'autres, on n'a pas assez de temps à y allouer pour pouvoir le
Ouais,
faire.
puis ça dépend des gens, tu vois. Je sais pas, moi, un trailer, tu veux lui rajouter du volume, mais il est déjà un peu limite sur sa capacité à encaisser. Bah oui, tu vas lui mettre une sortie vélo, puis la sortie vélo, tu vas la transformer en vélo plus course, et puis ensuite, et ainsi de suite, tu vois, tu vas faire progressivement. Mais ça, peut-être que ça va prendre 6 mois ou 1 an. Mais ça répond à un projet. Moi, je vois, par exemple, on parlait de fréquence sur le squat. Quand je récupère un athlète, je ne mets pas 3 fréquences de squat dans la semaine. Si le mec, il a squatté toute sa vie qu'une fois par semaine, bah peut-être que je vais le passer à 2 en termes de fréquence, d'accord, pendant un certain temps. Tu vois, bah, admettons, il était habitué à faire une séance de squat avec 6 séries de squat dans sa séance. Eh bien, je vais lui mettre 2 séances de squat avec 3 et 3. Comme ça, j'ai un volume équivalent, mais avec une répartition sur 2 jours. Tu vois? Petit à petit, je vais lui faire monter le volume. Tu vois? Il y a une séance où je vais passer à 4 et l'autre, je vais rester à 3, puis 4 et 4, puis 5 et 5, peut-être, et ainsi de suite. Alors ça, je te dis ça, mais ça prend plusieurs blocs. Tu vois? Et quand je vais être arrivé à une dizaine de séries, je vais peut-être lui rajouter sur une troisième séance un petit squat bulgare en mode muscu renfo pour commencer à habituer les tissus. Et après, le squat bulgare, je vais le remplacer par un troisième squat, mais je vais fractionner. Donc, j'étais arrivé à 10 séries. Eh bien, je vais peut-être faire 3, 3, 3, mais sur 3 fréquences. Et comme ça, j'ai augmenté son exposition sur la semaine, mais sans augmenter le volume. Et après seulement, je fais monter le volume. Mais tout ça, tu vois, ça prend du temps. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais du coup, pour rajouter une séance de squat, tu vas mettre 8 mois ou 9 mois. Oui, mais si je lui rajoute tout de suite et qu'il se blesse et qu'il ne la rentabilise pas, bah, ça m'aura servi à rien de la rajouter, en fait. Et s'il progresse avec 2, bah, je n'ai pas de raison de lui rajouter la troisième. La troisième, c'est une cartouche que je me garde pour le moment où il va avoir un petit épisode de stagnation. Si tu as beaucoup de gens, parce que tu sais, dans l'endurance, quand tu écoutes un petit peu, il y a, plus tu t'entraînes, mieux c'est. Le volume d'entraînement, plus tu auras un volume d'entraînement, plus tu vas progresser. Mais si tu progresses avec un volume d'entraînement moyen, tu n'as pas de raison d'augmenter ton volume. Tu vas augmenter ton volume d'entraînement quand tu vas plafonner. Tant que tu ne plafonnes pas, c'est pas la peine d'aller griller la cartouche, de rajouter une séance. Tu le feras quand
Mais
tu plafonneras, en fait.
non, mais c'est sûr et certain. Ou qu'on en endurance quand ton objectif sera plus long, par exemple. Mais ça rejoint ce que tu dis. Et moi, je donne souvent l'exemple d'une fille que je coach, on a attaqué à 3 séances. Sa quatrième séance, elle est arrivée 4 mois plus tard. Et c'est la même chose que ton squat, c'était 20 minutes. Puis en
Oui,
fait,
voilà, c'est ça.
20, ça passe, t'observes. Bah, si 20, ça passe, t'essayes 30. Si 30, ça passe, t'essayes 40. Puis après, tu t'arrêtes parce que les gens bossent. Donc, tu ne peux pas aller plus loin. Mais tu es passé de 0 à 40 en plus. Donc, c'est déjà pas mal. Et c'est
C'est ça.
intéressant ce que tu dis dans l'individualisation parce que tu regardes les progrès des gens et tu rajoutes un outil ou une contrainte quand ils arrivent à le faire. Et ce n'est pas basé sur forcément son pourcentage de VMA, de 1 RM, de tout ce que tu veux. C'est sur sa capacité à encaisser. Oula, je te
Bah, de
vois
toute
qu'il lève
façon,
les yeux.
bon, on va pas. Non, mais tu sais, on a déjà discuté de la data à outrance. Faut sortir de la data. Alors, la data, c'est très bien et c'est bien d'avoir des données et tout. Et il faut objectiver certaines choses. Mais concrètement, le ressenti de l'athlète, comment il sent, etc., etc., ça fait tout, quoi. Moi, je regarde un petit peu le tonnage à la semaine, le tonnage sur le bloc. J'essaye de le faire un petit peu évoluer au fil du temps. Des fois, je regarde où on en était avant, où on en est après. J'ai un petit questionnaire pour voir le niveau de fatigue, la motivation, etc., etc. Et finalement, pour moi, c'est les deux seules datas qui soient vraiment utiles. Tu peux prendre des courbes de vitesse, etc., pour voir à combien bougent les barres, regarder. J'ai des gars qui ont ça et j'essaye d'exploiter un petit peu les données, mais pour moi, c'est juste pour objectiver le RPE, ça. Mais ça n'a pas un sens énorme de programmer uniquement à la vitesse à laquelle les lifts montent, etc., etc. C'est bien. En fait, tu mets tellement de variables dans la balance après que tu deviens esclave de ta data et en fait, tu finis par plus comprendre ce qui se passe, alors qu'en fait, juste la réponse, elle est sous ton nez. Est-ce que ton mec, il est fatigué ou pas? Et est-ce
Et
qu'il progresse ou pas?
pour les gens issus de l'endurance, en fait, le tonnage, c'est le nombre de kilos qui ont été élevés dans la semaine ou dans le mois. C'est ce que nous, on pourrait appeler le volume en nombre d'heures qui ont été passées. Enfin, c'est juste pour que les gens comprennent. Et,
Oui, non,
euh,
oui.
non,
Des fois,
non, t'inquiète pas,
j'oublie.
T'inquiète pas. Et j'ai une ou deux petites questions à te poser. Alors, ça pourrait faire l'objet d'un podcast de 10 heures, donc tu vas y répondre très rapidement pour les sportifs d'endurance. Et en
Je voulais
fait, on
parler pendant
sent.
10 heures, moi.
On sent ton expérience justement sur ça, sur se préserver, sur les blessures. Moi qui me suis fait infiltrer pour une hernie en 2017, je vois de quoi tu veux dire. C'est pour ça que je suis méfiant sur certaines choses. Parce que souvent, quand on est jeune, il y a tout qui passe. Et sur soi-même, c'est pas gênant, mais quand on dit à tout le monde qu'il y a tout qui passe, c'est un peu plus gênant pour moi. Il y a un grand débat qui anime parce que ça va arriver dans l'endurance, donc je préfère en parler, sur le soulevé de terre qui doit être dos plat ou dos rond.
Alors en fait, tout dépend de ce qu'on appelle dos rond déjà. C'est-à-dire qu'il faut commencer par définir le dos rond et de quelle partie du dos on parle. Est-ce qu'on parle de la partie lombaire ou thoracique et à quel point c'est rond? Parce qu'en fait, dos rond, ça ne veut rien dire. Et tout dépend du gainage qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire que si tu as un dos complètement rond, relâché, sans aucune activation musculaire, avec les vertèbres qui sont embutées, ça ne peut pas bien se passer. Si tu as un dos qui est légèrement arrondi avec une légère flexion lombaire, mais une grosse activation musculaire, etc., etc., et que cette flexion lombaire, elle est répartie sur l'ensemble du rachis lombaire, on peut discuter. Mais encore une fois, on parle beaucoup de la plasticité des tissus, parce qu'en gros, l'argument, c'est de dire le corps s'adapte, les tissus s'adaptent, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais à un certain rythme et dans une certaine mesure. C'est-à-dire que votre progression en termes de charge, donc je sais pas, moi, vous commencez, vous avez passé de 0, de 100 à 150 très vite, parce que 150 kilos soulevé de terre, on se rend compte que c'est pas lourd et que la plupart, enfin, n'importe quel être humain est capable de faire ça, voire même plus. Vous allez y passer très vite. Par contre, la capacité de vos tissus, notamment de vos vertèbres, à encaisser cette charge à 150, ça va aller beaucoup moins vite. D'accord? Et donc, si vous le faites avec une posture qui est un petit peu borderline et qui vient appuyer un tout petit peu et créer des conflits au niveau des disques, ben, probablement que vos tissus vont s'adapter moins vite que la charge va monter et que vous allez commencer à créer des micro-lésions. Donc, tant que vous n'êtes pas très fort, ça aura un impact pas très important parce que forcément, ben, la contrainte, elle sera faible. Mais par contre, bah, quand vous allez l'accumuler, forcément, la contrainte, elle sera trop forte et vous allez risquer de vous blesser. Donc, ce n'est pas dramatique si vous êtes un peu rond dans une certaine mesure et que vous prenez le temps de monter en charge. Voilà.
Ce qui est sûrement valable sur la plupart des mouvements, j'imagine, comme
Bah,
raisonnement.
surtout, mais de la même manière, si tu progresses, en fait, on progresse toujours plus vite que nos tissus sont capables d'encaisser. C'est pour ça que des fois, moi j'ai des athlètes, ils sont capables de faire 10 kilos de plus, mais je ne leur fais pas forcément faire. Parce que je vais me contenter de leur faire plus 2,5. Et puis on va repartir plus bas. Et en fait, on va garder toujours une certaine marge. Pour les athlètes entre débutants et intermédiaires, c'est intéressant, notamment ceux qui ne font pas de compétition. Parce que bah, en gardant cette marge, tu gardes une certaine dynamique de progression, tu gardes une inertie dans l'entraînement, mais tu te préserves des blessures. Si tu veux faire de la compétition, de la performance, et que du coup tu dois vraiment être au taquet du taquet, on rediscute. Mais après, encore une fois, le sport performance, c'est quand même différent du sport santé. Ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est-à-dire que si vous vous entraînez pour repousser vos limites systématiquement, forcément que ça aura un impact, et que vous aurez des blessures. Les gens qui vous disent, vous pouvez faire du sport performance sans vous blesser, c'est des menteurs. C'est pas vrai. Par contre, vous pouvez progresser sans vous faire trop mal, ça c'est vrai, mais vous allez avoir des petits bobos et bah forcément, bah, tu peux pas courir 20 ans sans avoir jamais une tendinopathie ou une périostite. Je pense que c'est impossible si tu cours un peu sérieusement. Et même si tu cours qu'une fois par semaine, ça va t'arriver. C'est pas dramatique pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut pas courir. Voilà, bah, de la même manière, la musculation, le powerlifting, l'haltérophilie ou qu'importe. Ça va être la même chose. Tu vas avoir des petits bobos, des petites choses, mais ce n'est pas dramatique si c'est pris en compte comme il faut, si c'est bien managé et si tu le gères intelligemment. Et il y a des choses à faire pour l'empêcher. Il n'y a pas de
Je pense,
fatalisme, en fait.
je pense parce que je pense que quand tu cherches une performance de haut niveau où chacun a son propre niveau, en fait, je pense que enfin, pour moi, tu cherches pas, entre guillemets, le maximum à l'entraînement de ce que tu es capable de faire, tu cherches le maximum de ce qui est tolérable pour la personne. Et du coup, tu cherches cette limite-là, et des fois, bah, tu te plantes un peu, hein, le coach ou l'athlète, et tu es allé un peu trop loin dans cette limite, et puis du coup, bah, ça pète un coup, ça fait chier. Pardon, je m'exprime mal, mais après, tu reviens un peu en arrière, et puis c'est
Bah,
pas grave. Hein.
de toute manière, l'entraînement, c'est créer un stress pour que le corps réponde à ce stress par une adaptation. Le stress, il faut le manager pour qu'il soit dans un décalage optimal. Si ton stress, il est en dessous de ce que tu es capable de tolérer, bah, a priori, il ne va pas y avoir d'adaptation parce que le corps, il n'a pas besoin de s'adapter, il est dans sa zone de confort. S'il est un tout petit peu au-dessus, bah, tu vas t'adapter bien et il y a peu de risques de blessure. Si tu es vraiment trop au-dessus, bah, tes capacités d'adaptation, elles ne suivent pas et donc, du coup, tu vas a priori te blesser. Mais effectivement, il faut manager. Le problème, c'est que le corps humain, bah, ce n'est pas une boîte de conserve. Et tu connais pas son degré de tolérance. Et qu'en plus, son degré de tolérance d'un individu à l'autre, il change, mais d'une période à l'autre, il change. Si le mec, dans sa vie perso, c'est le bordel parce qu'au boulot, ça va pas, sa femme, parce qu'il dort mal, parce que ci, parce que là, eh ben, le stress tolérable, il va chuter complètement. Donc, du coup, parce qu'il a déjà tellement de stress dans sa vie perso, moi, ça m'est. Parce que quand tu coaches des gens, tu les accompagnes aussi, bah, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses de la vie. Moi, quand j'ai quelqu'un qui est confronté à des choses comme ça peut être un décès dans la famille ou plein de choses, j'adapte l'entraînement. Tu peux pas dire à un mec, ah bah tant pis, on va continuer de monter comme des ânes, et puis ça va forcément mal se passer. Donc bah ok, ça fait chier, bah, pendant un mois, 2 mois, peut-être que tu vas passer sur une phase plutôt d'entretien, tu laisses passer l'orage, et ensuite tu vas relancer ta progression. Mais si tu veux absolument coller au plan, et c'est là où il faut sortir de la data, mais si tu veux absolument coller au plan et tu te dis, ah bah non, là on va perdre du tonnage et puis machin, ça va impacter la progression et tout. Le mec, tu l'envoies au casse-pipe et à l'échec, et en fait, c'est pas bon.
Ah, bien sûr, bien sûr. Et autre question, pour un sportif d'endurance, hein, on va y aller comme ça, sur un mouvement de genou, donc le squat par exemple, tu serais plutôt back squat, front squat, squat gobelet, et c'est la même chose sur la fente, avec la charge sur le dos, la charge le long du corps, tu vois ce que je veux dire?
Ouais,
Dans l'optique de
j'aurais tendance
prévention,
à
hein.
dire. Spontanément, comme ça, j'aurais tendance à dire plutôt sur le dos pour mieux solliciter la chaîne postérieure et mettre un peu moins de contraintes sur le genou. Parce que globalement, je pense que les sportifs d'endurance n'ont pas une chaîne postérieure énorme. Ils ont souvent plutôt des fessiers déficitaires et c'est ce qui leur crée des blessures. Et je ne suis pas sûr que d'aller sur. Parce qu'en fait, quand vous allez avoir la charge devant, donc sur un goblet squat, a priori, vous allez avoir plus d'avancée du genou, moins de flexion de hanche, plus d'avancée du genou, et donc une contrainte au niveau du genou qui est un petit peu supérieure. Donc, dans la mesure où il y a peu de temps à y dédier, moi, je pense que la porte d'entrée, elle serait plutôt sur le dos, en barre nuque, pour augmenter la charge sur la chaîne postérieure et augmenter le développement de la chaîne postérieure. Et après, peut-être, si vous avez plus de volume, plus de temps, etc., etc., mettre du travail devant pour justement avoir plus de flexion de genoux et un petit peu habituer les tissus. Mais je mettrais plutôt la porte d'entrée sur la chaîne antérieure pour limiter la contrainte sur le genou.
Ok. Non, mais je vois. Alors, tu vois, comme quoi j'en apprends toujours. Moi, je suis beaucoup plutôt sur le goblet de squat ou les fentes avec le poids en dessous pour deux raisons pratiques. C'est que les gens ne sont pas tous équipés. Donc, avec un kettlebell, c'est un peu plus simple à faire. Et par contre, je le compense, le fait qu'il y ait moins d'activation des fessiers avec, ou de chaîne postérieure avec le kettlebell swing ou éventuellement du bridge, justement, pour essayer de compenser un peu ça. Je ne sais pas si c'est stupide ou pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvaise surprise.
Après, il y a aussi le gobelet, la prise gobelet est plus facile d'accès en termes de
Ouais.
gainage, en termes de plein de choses, tu vois.
C'est
Donc,
surtout pour ça aussi, ouais.
sous cet angle-là, c'est vrai que ça peut se justifier. Après, je pense quand même que le bénéfice potentiel est plus important pour une autre raison, c'est que naturellement, tu mets plus lourd avec la charge sur la nuque qu'avec une prise gobelet. Donc, comme tu vas être plus fort et recruter plus de muscles, la rentabilité sera meilleure. Tu
Ah, je
vois, moi,
vois, c'est.
je le vois plutôt comme ça. Par contre, effectivement, en termes d'accessibilité, le gobelet est plus intéressant. Et quelqu'un qui a jamais fait de musculation, quand tu lui apprends le squat, dans l'apprentissage, là, si on parle vraiment d'apprentissage, bah, tu pars du goblet squat, a priori, en descendant sur une box au début, et ensuite en amplitude complète. Et quand le gobelet, il est maîtrisé, tu vas peut-être passer barre clavicule et ensuite barre nuque. Et aller progressivement sur autre chose. Mais c'est vrai que le gobelet est plus accessible en termes de technique. Par contre, en termes de rentabilité, forcément, comme tu vas mettre plus lourd sur tout ce qui est barre nuque et recruter plus de muscles, bah, la rentabilité sera meilleure. À long
Ouais,
terme.
mais je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Après, justement, moi j'essaye aussi dans le sport santé, enfin le renfort santé pour les amateurs, de mettre un peu moins lourd pour plein de raisons. Mais après, c'est toujours une question d'équilibre. Mais et
Ouais,
la
après,
mini. Ouais, vas-y, vas-y.
Le un peu moins lourd, d'un point de vue santé, il se justifie, c'est-à-dire que, enfin, il se discute, c'est-à-dire que plus tu vas être fort, a priori, plus tu vas être en santé. C'est un des marqueurs de santé d'être fort. Donc, le fait de lui faire mettre plus lourd, tu vas quand même le rendre à terme en meilleure santé. Tu vois, de la même manière que je considère que pour être en bonne santé, il faut être capable de courir 10 km plus ou moins à 10 à l'heure. Si tu n'es pas capable de faire ça, à mon sens, tu n'es pas vraiment en bonne santé, tu vois, au niveau cardiovasculaire. Bah, de la même manière, si tu n'es pas capable de, je sais pas moi, de porter un truc qui fait une cinquantaine de kilos sur une vingtaine de mètres, a priori, tu n'es sans doute pas en bonne santé non plus. Donc, ton athlète, il n'est pas non plus totalement en sucre, même s'il fait du trail et qu'il n'est pas très épais. Il devrait être capable de pouvoir faire un squat avec une barre sur la nuque à 50, 60, 70 kilos, a priori, à son poids de corps, tu vois, ou un peu plus que son poids de corps. Pour moi, tu vois, être capable de faire 5, 6 reps à ton poids de corps ou 10, 15 kilos de plus que ton poids de corps, c'est quand même un vecteur de santé. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça veut dire qu'au niveau mobilité, c'est sans doute pas terrible. Et au niveau force sur des amplitudes, c'est sans doute pas terrible, tu vois. Donc, aller au-delà, c'est peut-être pas nécessaire, mais avoir ce niveau, entre guillemets, de base, ça me semble être cohérent.
Ouais, mais c'est juste ce
C'est
que tu dis, ce
accessible.
que. Ouais, oui, parce qu'on monte pas sur des charges très lourdes, entre guillemets. Et ça, je veux insister dessus pour les gens qui nous écoutent, c'est important. Et il y a aussi l'apprentissage, la porte d'entrée. Il y a aussi l'accès à la salle et au matériel. Tu vois, par exemple, une fille que j'ai, on fait pas de back squat avec elle pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle a une barre qu'elle peut mettre sur deux box, mais elle a pas de rack à squat. Donc de toute façon, j'ai pas envie de lui demander de faire un arraché ou pour venir lui mettre sur le dos. Donc il faut toujours être pragmatique et il y a aussi une différence entre, je pense, et Je dis ça pour aussi les gens qui nous écoutent et certains coachs, c'est que moi, si je dois aller faire du back squat avec quelqu'un avec une charge qui est assez lourde, il faut que je sois présent pour le coacher. Parce
Oui, pour
que,
corriger.
ouais, pour corriger, pour checker, etc. Et sur des suivis à distance, d'athlètes d'endurance qui ne sont pas spécialistes de force, tu vois, qui n'ont pas la technique, je trouve que c'est vraiment un peu plus risqué. Et c'est pour ça que je nuance aussi le propos par rapport à ça. Et la tendance qu'on a à lire, il faut faire du lourd, il faut faire du lourd. Et je pense que c'est dans un monde idéal, mais que le vrai monde, en fait, c'est les contraintes des gens.
Ah ben, ça, c'est sûr. Après, cette notion d'apprentissage, elle est assez importante. Et c'est vrai que tu dois pouvoir corriger le squat, etc. Et moi, la plupart des gens qui me contactent pour du coaching, c'est des gens qui ont déjà une certaine
Ouais,
base, en fait.
bien
Donc,
sûr.
du
Ouais.
coup, ça arrive. Hein. J'ai des gens parfois qui savent pas faire un squat, qui me contactent. Et on apprend, etc. Et même à distance, ça peut se faire, mais ça nécessite quand même de prendre des portes dérobées et d'avoir un bon niveau d'expertise et de correction. Mais tu peux quand même corriger des choses. Ou alors après, si vraiment tu estimes que c'est important de le faire, bah peut-être que la personne, elle peut aussi trouver dans la salle où elle va quelqu'un qui peut la corriger un petit peu, lui apprendre. Mais encore une fois, il y a la réalité du terrain et la réalité de la capacité d'investissement des gens. Ça, c'est sûr.
Et autre question, parce que ça a toujours été le débat depuis longtemps. Est-ce qu'il y a des mouvements qui seraient fonctionnels et des mouvements qui ne seraient pas fonctionnels? Ah, tu
Bah,
rigoles.
non, mais tout est plus ou moins fonctionnel. Après, c'est sûr que c'est plus fonctionnel de faire un Turkish get-up que de se mettre sur une machine guidée et de pousser devant comme ça sur une machine guidée. Malgré tout, je pense que le corps humain, il est fait pour bouger dans tous les axes, tous les plans et de toutes les manières possibles. Et que le fonctionnel, en fait, il vient plutôt de la variété de ce que tu fais que réellement des mouvements en eux-mêmes. Après, effectivement, un mouvement polyarticulaire va a priori être plus fonctionnel que juste un curl biceps. Malgré tout, c'est pas parce que tu veux faire des mouvements complets que le curl biceps n'a pas un intérêt dans ton entraînement. Tu vois, parce que ça va quand même permettre d'avoir une sollicitation au niveau des tissus, au niveau plus local, etc. Et même dans la prévention des blessures et tout, ça peut avoir une pertinence.
Ouais, bah, toi, tu as l'exemple du biceps curl parce que c'est les sports de force. Je vais prendre son opposé pour le coureur qui est le Nordic Hamstring, à peu de choses près, qui est un mouvement d'isolation. On pourrait dire, c'est pas enfin, de semi-isolation en tout cas. Pour moi, hein, en tout cas, qui est vraiment ciblé sur pas mal les ischios, chaînes postérieures, on pourrait dire c'est pas fonctionnel parce que ça ressemble pas au mouvement. N'empêche que si ça t'aide à encaisser les entraînements et être plus
Oui.
fort, il n'y a rien de plus fonctionnel.
Ah bah c'est sûr. Et puis pour moi, le Nordic Hamstring, je pense que c'est l'exo-ischio-jambier le plus dur de tous en termes de difficulté parce que l'amplitude elle est énorme et tout. Et j'ai l'exemple j'ai une très bonne amie qui est sportive de haut niveau en BMX Race. Assez bousillé un genou, assez arraché un ligament et le ligament il tenait à rien. Son genou, il a tenu et c'est resté stable et tout, parce que sur le nordique, c'est une machine et qu'elle est capable de faire 10-12 reps en amplitude complète, etc. Et qu'elle a des ischios en béton et des quadris monstrueux. Et grâce à cette capacité à avoir énormément de stabilité et des jambes ultra fortes, ça lui a permis d'éviter la case opération et de maintenir quand même de la stabilité du genou uniquement sur sa masse musculaire. Donc forcément que ça a un intérêt. Et pour le coup, dans le cas des coureurs à pied, avoir des ischios forts, ça va aussi te permettre d'avoir beaucoup moins de pathologies au niveau du genou. Parce que bon, des arrachements, il n'y en a peut-être pas trop, ce n'est pas non plus des sports hyper traumatiques, mais par contre, des tendinopathies et tout, si tu as des ischios forts, tu t'en évites quand même pas mal, quoi. Et avoir un bon
Oui.
équilibre entre semi-tendineux, semi-membraneux.
Oui, ça, de toute façon, n'importe quel mouvement devient fonctionnel à partir du moment où il t'aide à supporter ton activité spécifique. C'est pour ça que, ah, il y a un peu une dichotomie, les gens opposent les deux entre le tout fonctionnel ou ça, mais je ne suis pas sûr que le raisonnement devrait être là. C'est pour ça que je voulais aussi ton avis là-dessus.
Bah, en fait, tout doit être fait en fonction de tes besoins. C'est-à-dire que tu as une unité de temps dans ta semaine qui est j'ai tant d'heures d'entraînement. Ok, comment je rentabilise cette unité de temps et qu'est-ce que j'en fais? Si sur, je sais pas, moi j'ai 20 heures d'entraînement, si sur mes 20 heures d'entraînement, je fais 18 heures de prévention des blessures et 2 heures d'entraînement, Bon, sans doute que je ne le rentabilise pas bien. Si je fais 18 heures d'entraînement et 2 heures de prévention des blessures, peut-être qu'il y a trop de spécifiques et la prévention des blessures, elle n'est pas assez bonne. Et entre les deux, tu as un équilibre qui est propre à chacun. Et même dans la répartition de la prévention des blessures, tu vois, moi je considère que le travail de zone 2, le travail cardiovasculaire et tout, qui augmente mes capacités de récupération, c'est déjà de la prévention des blessures, en fait, indirectement, parce que ça va me permettre de mieux encaisser. Et après, le travail de mobilité spécifique, il va être utile et tout. En powerlifting, les zones qui sont souvent blessées, c'est les genoux, les hanches, le dos et un petit peu les épaules, les pecs. Tu fais beaucoup de travail de prévention là-dessus, c'est normal. En powerlifting, je connais personne qui s'est fait mal à la cheville. Parce que, bah, a priori, c'est pas quelque chose qui est mis sous contrainte. Si tu fais de la prophylaxie sur la cheville en powerlifting, bah, tu perds a priori ton temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors que si tu fais du trail et que tu fais pas de prophylaxie sur la cheville, sans doute que tu joues un peu trop avec le feu.
Ah, c'est
Et à
juste.
l'inverse, en trail, t'as sans doute pas besoin de faire de prophylaxie sur les épaules et sur les pectoraux parce que, a priori, bah, c'est pas une zone que tu vas te blesser. Ou alors c'est parce que tu vas tomber et que tu vas mal tomber, auquel cas la profil, enfin c'est pas de bol.
Ouais, c'est sûr, hein. Bah, tu vois, la parenthèse sur les épaules, parce que j'ai eu le cas au printemps, c'est pas de la prophylaxie, mais j'ai un coureur qui avait, tu vois, quand tu fais des ultras, tu as le sac à dos. Et qui avait aussi un problème de posture, etc. Et lui, on a bossé beaucoup sur ses épaules et pas sur ses jambes, parce que c'est le temps alloué, parce que ses douleurs aux épaules devenaient un facteur limitant. Après,
Handicapant.
on n'a pas fait du lourd, hein. On a fait YTWL, enfin tous les classiques, des fois
Ouais,
sans charge ou avec une bouteille,
c'est
ouais.
ça, fixation thoracique, du trapèze, un peu de cervical, et normalement, ça suffit par rapport à ses besoins. Mais tu vois, ça répond à un besoin. C'est-à-dire que quel est le constat? Je suis limité par les douleurs liées au sac à dos. Ok, bon, mais on va mettre en place, on va dédier, je ne sais pas, moi, peut-être 20 minutes dans la semaine ou 25, je ne sais
C'est
pas ce que vous
ça.
avez fait, à
Ouais.
ça. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Pas forcément, mais ça suffit, tu vois. Et après, tout est lié à ton unité de temps et tes contraintes de temps. Et tes besoins. Si tu y avais dédié 3 heures, c'était sans doute trop. Mais peut-être que 20-30 minutes, c'était suffisant.
Ouais. Et tu vois, sans dire que c'était un coup de génie, mais on a fixé le problème en faisant ça, sans faire de la charge lourde, sans faire tout ce que tu veux, parce que en fait, chaque outil est adapté à la situation. Donc en fait, il faut vraiment réfléchir à tout ça.
Non, mais je suis tout à fait d'accord. Il faut coller à tes besoins, en fait.
Et ça ne veut pas dire que tous les trailers doivent passer par là. Ça, c'est une évidence.
Encore une fois, si tu n'as pas d'ennui avec ton sac à dos, effectivement, ça n'a pas de pertinence.
Ok. Bah, Clément, on arrive un peu en fin d'émission qui est un peu longue, hein, mais écoute, c'est le podcast d'endurance, donc c'est pas grave.
C'est
Essaie de ma faute.
Endurance 80 aujourd'hui.
Endurance 80, oui. Bah, ça sera pour les haltérophiles quand vous aurez un peu la santé et que vous ferez 1h20 de zone 2, comme ça ils pourront l'écouter. Non, je rigole, je rigole. Et quel conseil tu pourrais donner aux gens de manière plus générale pour leur pratique du sport?
D'être malin et d'être patient. Parce que moi, je vois trop de gens qui veulent être forts tout de suite, progresser tout de suite. Quand je dis être fort, c'est être performant tout de suite, trop vite. Et bah, dans la vie, il y a tout ce qui est un petit peu intéressant, tu l'as jamais rapidement. Ça met du temps à se construire. Il faut construire des fondations, il faut faire les choses intelligemment, il faut prendre son temps. Et souvent, quand on veut aller trop vite, bah, finalement, on perd du temps. Donc, c'est vraiment ça, d'être patient dans la pratique et d'être beaucoup dans le process. On dit tout le temps qu'il faut prendre du plaisir au processus, etc., etc. Mais c'est très vrai parce que si tu veux être fort, ça va te prendre 10 ans. Si tu veux courir un ultra trail de 100 km dans un temps très, très bon, ça va sans doute te prendre 10 ans aussi. Si tu veux le faire en 5 ans, bah, sans doute que ça va pas bien se passer. Donc, il faut accepter que tu vas passer 10 ans pour y arriver et prendre plaisir à passer ces 10 ans,
Je savais que tu étais un sportif d'endurance dans le fond, au fond de toi.
non, mais
Que...
j'ai toujours dit que je ferai une reconversion au triathlon plus tard, quand je serai
Oh
vieux.
putain, cool.
Donc, je ferai des Ironman, mais quand je serai vraiment moisi et que je pourrai plus soulever une charge lourde.
Ouais, bah a priori, pour les Ironman, la natation, ça va être l'axe de
Ah.
travail prioritaire,
Ah,
hein.
putain, ah bah ouais, puis de loin, là, ça va être 20 heures d'unité
Bah,
de
ouais, mais tu vois, on rigole, mais sur le temps affecté et sur tout ça, et on lit souvent la natation, c'est super et tout, mais moi, je suis comme toi. Si je vais faire une séance de natation, pour pas couler, je vais me battre comme un
oui.
forcené, donc je vais pas du tout récupérer en une séance de natation.
Non, mais toi, tu viens du. Toi, tu as grandi à la montagne. Tu viens du ski de fond, tu es dans une famille de skieurs de fond et tout. Moi, j'ai fait du ski de fond pour la première fois de ma vie à 31 ans.
Ouais.
J'ai passé, donc j'étais qu'avec des gens, soit des Auvergnats, soit des gens des Alpes. Donc ils avaient tous fait, ils étaient tous nés sur des skis, tu vois. J'ai passé mon temps à me péter la gueule. Franchement, j'aurais fait une randonnée raquette, ça aurait été plus rentable pour moi. Moi, si je veux faire du cardio, je fais pas du ski de fond, ça n'a pas de sens. Toi, tu peux te faire une petite sortie ski de fond tranquille. La natation, c'est pareil. Si tu sais pas nager, bah c'est pas de l'endurance, c'est une épreuve.
Mais tu vois, ça me fait la parenthèse, le ski de fond que tu dis sur l'entraînement croisé, sur des gens qui sont pas skieurs. Moi, ce que je conseille souvent, c'est que si c'est super d'aller faire du ski de fond en prépa, l'hiver pour le reste de la saison, en sportif d'endurance, mais je leur dis, je conseille en tout cas moduler l'intensité que vous faites à côté, parce que ne serait-ce que pour vous déplacer, vous allez déjà consommer une énergie folle et vous n'allez pas du tout être dans un process de récupération ou de développement foncier, on va appeler ça comme ça. Vous êtes dans un process de, j'exagère, mais de survie. Donc à côté de ça, moduler l'entraînement à côté.
Ben, on en revient à ce qu'on disait sur l'haltérophilie ou sur la natation ou ben là, en l'occurrence le ski de fond, c'est-à-dire que tu as un coût d'apprentissage et tant que tu maîtrises pas une activité, tu peux pas la faire tranquillement. Moi, je viens du judo, je peux faire un petit randori tranquille comme ça, sans forcer, être relâché et tout, parce que j'ai 25 ans de judo derrière moi, c'est facile. Toi, si tu fais un petit combat au sol, si tu n'as pas un bagage judo, au bout de 30 secondes, tu vas être tétanisé de partout, tu vas être au bout de ta vie parce que tu seras crispé, tu n'auras pas la capacité à te relâcher. Donc, il y a un apprentissage technique, un coût d'apprentissage, et ça sert à rien de mettre une nouvelle modalité d'entraînement si vous la maîtrisez pas. Et si vous voulez ajouter absolument cette modalité d'entraînement, le ski de fond ou la natation ou peu importe, parce que c'est important, eh bien, vous devez mettre un coup d'apprentissage. Si on parle de la reconversion triathlon, ben je sais que le jour où je vais vouloir le faire, il va falloir que je fasse de la natation 3-4 fois dans la semaine avec un coach pour apprendre. Et une fois que je saurai bien nager, ça va peut-être me prendre 6 mois ou 1 an, et une fois que je saurai bien nager, là seulement je vais rentabiliser mes séances natation. Mais je prends en compte le coût d'apprentissage avant. Et pour
C'est
l'haltéro,
intéressant.
pour la prépa physique, c'est pareil.
Le coût de l'apprentissage, c'est vraiment intéressant. Ça sera le titre du podcast, tiens,
Le
sûrement.
coût de l'apprentissage, allez, c'est parti.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Clément.
Mais de rien, Nico, avec plaisir.
Allez, au revoir à tout le monde.
Salut.
Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et un petit 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, ça fait toujours plaisir et ça incite à continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram agile.training.